Alors, nous sommes dans une série depuis pas mal de temps dans notre église sur l'épître aux Éphésiens qu'on a vu avec beaucoup d'attention. Et il y a un passage qui a donné naissance à une série que j'ai appelée Annexe par rapport au combat spirituel que l'on trouve en Éphésiens chapitre 6 et verset 10 jusqu'au verset 20. Et nous allons, comme d'habitude, nous le faisons le dimanche matin, relire ce passage pour nous placer toujours dans le contexte du livre que nous sommes en train d'étudier, qui est le livre aux Éphésiens, que l'apôtre Paul a écrit. Verset 10, chapitre 6, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Face à ce combat spirituel dans lequel Dieu nous place, une fois qu'on connaît le Seigneur Jésus-Christ, on découvre qu'il y a ce combat, qu'il y a un ennemi, et une des choses que Dieu nous demande pour y faire face, c'est de se fortifier, de se revêtir de la présence de Jésus-Christ et de sa puissance. Ensuite, il est écrit au verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Et on a vu ensemble ce qu'est le diable, qui est le diable, ses ruses, son armée, donc ses démons, ses noms qui montrent sa nature, et pour ainsi mieux connaître l'origine parfois de nos combats et pour mieux être aguerri à combattre et utiliser les armes de Dieu. Et nous verrons ce thème sur les armes de Dieu plus tard, quand nous aurons terminé la série sur les accès possibles donnés au diable par le croyant. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Que le Seigneur lui-même dispose nos cœurs à écouter sa parole et puis à la mettre en pratique dans nos vies. Alors on est dans le sujet du combat donc du croyant, Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. On a regardé ensemble la puissance du combattant, l'ennemi du croyant. En annexe, on est en train de regarder les chemins d'accès donnés à l'ennemi. Donc, nous allons regarder cela. Et en introduction, je vous rappelle que cela est venu du fait qu'on a regardé en Éphésiens chapitre 4, les versets 26 et 27, où il est écrit « Ne vous mettez pas en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Le croyant, même s'il est sincère, lorsqu'il pêche, peut ouvrir une brèche à l'ennemi et finalement donner accès au diable. Et ici, il est question de donner accès au diable à cause de la colère qui n'est pas réglée dans la vie du croyant et qui se coucherait avec la colère et qui garderait cette colère et qui ainsi donne un accès au diable. Et on a vu ensemble toute une liste de possibilités, malheureusement, pour le croyant qui peut donner accès à l'ennemi. On a vu la colère, c'est-à-dire des émotions, des sentiments contraires au cœur de Dieu, l'indécision, l'idolâtrie, notamment l'amour de l'argent, la désobéissance, le manque de maîtrise, la pensée, l'occultisme. On a donné d'ailleurs, je crois qu'il y a des feuilles, enfin, encore au fond de la salle, au sujet de toute une liste de, malheureusement, pratiques occultes que bien des gens ne réalisent pas, dont ils ne sont pas conscients, qui les lient aux malins. et puis aussi une prière de délivrance qui est à votre disposition. Donc. Et on a regardé l'autre dimanche dernier la convoitise de la chair. Et ce matin, le sujet, c'est le mensonge. Est-ce qu'un chrétien peut mentir? Est-ce qu'un chrétien peut mentir? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de mentir tout en étant croyant? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber dans ce piège où... Je pense qu'on va laisser tomber le PowerPoint, d'accord, s'il vous plaît. Sinon, on va distraire tout le monde. Ça va me déconcentrer et vous déconcentrer. Merci. Si tu veux éteindre la lumière, Luc, là, la projection, parce que, voilà. Je savais qu'il y aurait ce petit problème technique, on va laisser faire. Merci, Michael. Merci bien. Alors, je vous propose de regarder avec moi un premier passage que l'on trouve en Jean. Chapitre 8, vous savez qu'on a étudié pendant 3 ans à notre église, hein, dans les groupes de maison, l'évangile de Jean, verset par verset. Il y a un verset que Jésus a déclaré comme vérité aux juifs incrédules qui le rejetaient. Il leur a dit quelque chose d'extrêmement choquant et pourtant d'une terrible réalité. Ces terribles vérités qui se trouvent en Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. En fait, dans les Écritures, on voit qu'il y a toujours une opposition entre le mensonge et la vérité. Jésus de la vérité, le diable et le menteur par excellence. Et lorsqu'on suit les voies du diable, on fait Dieu menteur et on a pour père le diable. Donc on doit savoir que Jésus veut qu'on vive dans la vérité. Or il y a toutes sortes de ténèbres, de mensonges dans ce monde à tous les niveaux, qui font que même le croyant pourrait être entraîné dans le mensonge, qui est très subtil. Le diable peut tenter le croyant à vivre dans le mensonge, peut-être par ignorance, qui est communiquée parfois par les philosophies de ce monde, ou le diable lui-même, en tant que celui qui suggère des mauvaises pensées à l'être humain. Il y a toutes sortes de pièges à éviter pour que le croyant vive dans la vérité, toute la vérité, et renonce au mensonge. La Bible dit qu'on doit renoncer au mensonge et parler selon la vérité à son prochain. Dieu veut qu'on soit des gens, des croyants, des hommes et des femmes de Dieu qui disons la vérité et qui vivons la vérité de Dieu. Et la vérité sans mensonge. Alors c'est un défi pour chacun de nous. Et j'aimerais qu'on regarde un premier passage, parce que nous avons développé cette méthode quelque part après, pour chaque accès possible à l'ennemi, l'idée de donner un texte de base, des exemples bibliques, les conséquences et des recommandations. Et ce matin, on va développer un petit peu le thème du mensonge. Mais j'aimerais vous montrer tout d'abord dans la Bible un passage en 2 Rois. Si vous avez vos Bibles, c'est bon de tourner en 2 Rois. Et l'histoire d'un serviteur qui s'appelait Géasi, c'est en 2 Rois chapitre 5, verset 20 à 23. On ne peut pas lire toute l'histoire de Naaman, n'est-ce pas, qui a été guéri par Élisée le prophète. Mais il avait un serviteur, après que Élisée ait refusé tout don, en échange du miracle de guérison qu'Élisée avait fait au nom de Dieu, Élisée a absolument refusé tout don. Mais Géasi trouvait que son patron, entre guillemets, avait bien tort de ne pas se faire récompenser. Et donc, voilà ce qu'il fait, après que Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, le serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, parce qu'il y avait toujours une guerre entre Israël et la Syrie, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Voyez-vous, dans le cœur de Gehazi, il y a une mauvaise réaction parce qu'il n'accepte pas la grâce de Dieu qui a guéri totalement un chef, certes, de l'armée syrienne qui combattait Israël par pure grâce. Dieu a guéri cet homme par pure grâce, mais Gehazi ne comprend pas cela, le pardon, la guérison, et donc il veut faire payer quelque chose à Naaman. Vous savez, le diable veut toujours nous faire payer quelque chose devant Dieu, comme si on pouvait gagner Dieu, alors qu'en fait, tout est grâce, on ne mérite rien. Et Gehazi courut après Naaman, Naaman le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit « Tout va-t-il bien ?» Il répondit « Tout va bien, mon maître m'envoie te dire. » Qu'est-ce que c'est cela? C'est un mensonge. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi deux jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes, donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et de vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre deux talents, il le pressa, il serra deux talents d'argent dans deux sacs, donna deux habits de rechange et les fit porter devant Gehazi par deux de ses serviteurs. Gehazi a convoité ce que son maître avait refusé. Et dans la vie du croyant, nous devons aussi combattre notre convoitise pour ne pas désirer ce que notre Dieu ne veut pas que nous possédions. On a vu qu'il y a un piège qui donne accès au diable, qui est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Mais Gehazi a menti pour arriver à ses fins, recevoir quelque chose que son maître lui-même avait refusé. Alors il y a un exemple aussi qui est flagrant dans le Nouveau Testament. Vous avez peut-être déjà deviné le passage. C'est en Actes chapitre 5. Il s'agit d'Ananias et Saphira, deux croyants de l'église primitive. Dans cette église primitive, tout le monde vivait ensemble. Tout le monde était d'un seul cœur, d'une seule âme, d'un seul esprit, partageant leurs biens. Mais un homme, verset 1, chapitre 5, Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit à Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ ?» Dieu n'a pas voulu que le réveil qui était installé dans l'église primitive soit entaché par le mensonge. Ananias et Saphira avaient pour motivation une certaine cupidité, en tout cas une malhonnêteté devant l'église, en sachant qu'ils avaient dit qu'ils avaient tout vendu et qu'ils donnaient tout, alors qu'ils avaient toute liberté de rien vendre, toute liberté de vendre et de garder une partie, mais ils ont voulu avoir la gloire de Dieu dans leur vie, comme les autres, mais sans la bonne attitude. Et c'est un mensonge. Et Pierre, rempli du Saint-Esprit et rempli de discernement, dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Alors, peut-être, vous connaissez la conséquence, on en parlera tout à l'heure, Ananias, Saphira, hommes et femmes, mari et épouse ont perdu la vie, Dieu les a châtiés, on appelle ça un châtiment exemplaire. Quelqu'un a dit, mais si dans l'église, tout le monde devait mourir parce qu'on a menti au Saint-Esprit, il ne resterait pas grand monde à l'église. Quelque part, c'était un châtiment exemplaire, mais il faut reconnaître que quand le Saint-Esprit nous parle et qu'il nous déclare vérité, telle ou telle chose, et que nous tournons le dos à cette vérité qui est la lumière de Christ par sa parole ou par son esprit, nous mentons à Dieu. Alors évidemment, là c'est une circonstance très particulière, mais voyez-vous, c'est très subtil comment le croyant, à cause de sa nature pécheresse, peut trouver des excuses pour mentir à Dieu, se mentir à lui-même finalement. Donc nous devons veiller que la parole de Dieu, dans toute sa puissance et vérité, soit en nous. Nous pouvons mentir à notre conjoint, nous pouvons mentir à nos enfants, nous pouvons mentir à nos frères et sœurs. Et sans nous rendre compte, nous pouvons mentir à Dieu lui-même. Mais heureusement que nous vivons sous la grâce, bien-aimés. Qui subsisterait sans la grâce de Dieu? Mais nous devons veiller que sous une forme ou une autre, le mensonge n'entre pas dans nos vies. Alors bon, malheureusement, j'avais quelques images choc, n'est-ce pas, du mensonge, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez aller sur Internet et taper « vérité mensonge » et vous allez avoir toutes sortes... C'est bon, laissons faire tout cela. Quelqu'un a dit ceci, « Avec un mensonge, on va loin, mais sans espoir de retour. » Friedrich Nietzsche a dit ceci, « Ce qui me bouleverse, ce n'est pas que tu m'aies menti, c'est que désormais, je ne pourrai plus te croire. Ce qui me bouleverse, ce n'est pas que tu m'aies menti, c'est que désormais, je ne pourrai plus te croire. » À un moment donné, lorsque le mensonge s'installe et qu'on est victime d'un mensonge d'une autre personne, la confiance disparaît. Et donc la confiance a besoin de se rétablir, d'être rétablie par la vérité. Mais on doit tester le menteur pour qu'il ne mente plus, pour qu'il vive dans la vérité et qu'il cesse de mentir. Alors on va regarder un petit peu ensemble ce matin, si vous me le permettez, le mensonge. On va parler de qu'est-ce que vraiment le mensonge. On va regarder aussi quelle est l'origine du mensonge. Qu'est-ce que dit Dieu au sujet du mensonge? Quelles sont les conséquences du mensonge, notamment chez le croyant? Pour quelles raisons l'homme ment-il? Et que doit faire le chrétien face au mensonge? Qu'est-ce que le mensonge? Alors, le mot hébreu pour mensonge, c'est aussi déception, désappointement, fausseté. Aussi, c'est traduit dans d'autres textes par tromperie, fraude, tort, faux serment. Autrement dit, le mensonge cache quelque chose. Dans le Nouveau Testament, le mot grec vient d'un mot, un verbe qui signifie leurrer. Donc leurrer, c'est proche de tromper, mais c'est aussi appâter, donc tendre un appât pour faire chuter quelqu'un ou le tromper, amorcer, séduire, attirer, tromper. En fait, le mot est souvent traduit par ruse, par fraude et par des paroles trompeuses. Et le dictionnaire Larousse, il ne faut pas l'oublier quand même, lorsqu'on parle définition de mots, c'est action de mentir, donc de déguiser, d'altérer la vérité, assertion contraire à la vérité. En fait, comme on dit, il y a des semi-vérités qui en fait sont des semi-mensonges ou des mensonges déguisés. Donc nous devons apprendre ce qu'est le mensonge et le combattre dans nos vies pour ne pas laisser l'ennemi avoir accès dans nos vies. Ce n'est pas simplement en pensée, ce n'est pas simplement en parole le mensonge. C'est peut-être une attitude que l'on vit qui est en fait une tromperie vis-à-vis des autres ou soi-même. Faire croire quelque chose à quelqu'un qui est faux. Je me souviens de mes enfants, ils étaient réellement choqués. Il avait un copain au lycée qui ne faisait que mentir. Mais il mentait tellement qu'il ne savait plus qu'il mentait. Et comme il mentait tellement, il inventait des mensonges pour cacher ses mensonges. Et il n'était même plus conscient qu'il vivait dans le mensonge. Et mon fils était bouleversé de voir que quelqu'un pouvait mentir à ce point-là. J'aimerais vous donner quelques citations connues, d'hommes connus, à propos du mensonge. Vous écoutez ? C'est bon ? Abraham Lincoln a dit « Aucun homme n'a assez de mémoire pour réussir dans le mensonge. » Autrement dit, le mensonge nous rattrape toujours. Alors dans un moment, mais j'ai déjà prêché d'ailleurs un message sur un exemple d'un politicien, je ne sais pas si vous déjà découvrez le nom de ce politicien qui a menti, on y reviendra, je vous garde un peu dans l'intérêt là. « Ce qui se construit sur le mensonge ne peut durer. » Marc Lévy, écrivain. Dans tout ce que tu dis, sois l'interprète de la vérité, ne permets pas à ta bouche le mensonge. C'est un poète grec du 6e siècle. Phocyclide de Milet. Bon, j'ai fait sa connaissance avec Internet. En politique, on ne flétrit le mensonge d'hier que pour flatter le mensonge d'aujourd'hui. Ça, c'est Jean Rostand qui a écrit ça à l'Académie française. Il ne dit pas de mensonge, mais il ne dit pas toute la vérité, ce qui est une façon de mentir. Ça, c'est Gustave Flaubert, un écrivain. il y a des mensonges même dans sa bouche, ses fausses dents. Ça, c'est pour montrer l'humour un petit peu jusqu'à quel point on peut se tromper. Et puis, quelqu'un a dit, la publicité, c'est le mensonge légalisé. Alors, on peut trouver toutes sortes de citations. Ce n'est pas, évidemment, l'objet du message ici ce matin. Mais j'aimerais dire que l'origine du mensonge, c'est le diable qui a été menteur dès le commencement. Et Jésus a dit toujours la vérité. Les hommes essaient de faire Dieu menteur, mais Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Mais vous savez, pour nous, c'est merveilleux cela. Ça veut dire qu'on peut toujours s'appuyer sur ce livre qui n'est fait d'aucun mensonge. Dieu est le Dieu de toute vérité. Lorsqu'il nous parle, il nous parle avec vérité. C'est formidable de vivre avec des gens qui veulent vivre humblement dans la vérité. Et c'est le défi de nous, les enfants de Dieu. Alors l'homme pécheur, malheureusement, il se transforme en menteur et vis-à-vis de Dieu. Et je vous donne un passage tout simple en Romains que vous connaissez certainement. Romains chapitre 1, versets 24 et 25, il dit... C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent même leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, eux qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. L'homme a été créé avec la pensée de l'éternité, la pensée de Dieu, même la pensée du jugement et la pensée que c'est Dieu, parfois inconnu pour beaucoup, malheureusement, qui est le Créateur de toutes choses. Mais en voyant la beauté de la création, ils disent non, Dieu n'a pas créé cela. Monod a écrit un livre, je ne sais pas si vous l'avez lu, il remonte à quelques années maintenant, Le hasard et la nécessité. Il y a à un moment donné une cellule qui a commencé à trouver une autre cellule, puis la vie a commencé. Et les hypothèses de la création, n'est-ce pas, se multiplient tout autant dans le mensonge les unes avec les autres. Ce sont parfois des tentatives honnêtes, mais on ne sait pas comment Dieu a créé. Mais on sait et on devrait savoir dans notre esprit que Dieu est le créateur de toutes choses. Et quand l'homme se détourne de Dieu en disant non, Dieu n'a pas créé cela et qui fait de l'homme une idole, il tombe dans tout sens de sens réprouvé, nous dit la Bible, parce qu'il tombe dans l'idolâtrie. Même la Bible dit dans l'Ancien Testament que le juif, parfois incrédule, idolâtre, prenait un morceau de bois, en coupait la moitié en faisant une bûche pour se chauffer, et l'autre moitié pour faire une idole qu'il allait adorer et prier et s'incliner devant. Ça, c'est la folie de l'homme. L'humanisme, où l'homme est le centre de toute chose, tandis que la théologie, retenez cela, ce matin, c'est Dieu qui est le centre de toute chose. Et lorsqu'on s'égare, lorsqu'on ne met plus Dieu au centre, lorsqu'on n'a plus la parole de Dieu au sein de nos vies, on s'égare dans toutes sortes de chemins où l'ennemi nous tend des pièges et où on peut donner accès à l'ennemi. Dieu est appelé le seul vrai Dieu. Jésus est appelé le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité. Et Jésus a dit, ta parole est la vérité. Et en 1 Jean 2, 21, il est écrit, je vous écris, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Alors c'est subtil comment le mensonge pourrait s'installer dans nos vies et nous devons le refuter, que ce soit au niveau des émotions, que ce soit au niveau des pensées, que ce soit au niveau de la connaissance et toutes sortes d'attitudes qui pourraient être des mensonges déguisés. Que dit Dieu au sujet du mensonge ? Dieu dit que le mensonge... c'est un péché, et même en Lévitique, je vous lis le texte rapidement pour nous faire gagner un peu de temps ce matin. En Lévitique 19, et verset 11, la Bible dit, « Vous ne déroberez point, vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperies les uns vers les autres. » C'est étonnant comment l'apôtre Paul, si on regarde les épîtres de près, se calque avec l'Ancien Testament, comment il était imbibé, imprégné des grandes vérités de l'Ancien Testament. En fait, le mensonge est associé à l'idolâtrie. Et en 1 Jean 2, 22, je passe outre certains passages pour des raisons de temps ce matin, mais en 1 Jean 2, verset 22, qu'on a étudié d'ailleurs en groupe de maison, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Voilà le plus grand mensonge qu'il y a sur la terre. Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ça, c'est un mensonge. Et on sait d'où il vient, et Dieu juge. Malheureusement, l'homme s'égare, et en disant que Christ n'est pas Dieu, Dieu va le juger. Et puis, dans le Proverbe 12, verset 22, « Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. » Je ne sais pas si vous avez entendu parler du prédicateur John MacArthur aux États-Unis, qui a écrit pas mal de commentaires. Il nous a raconté une fois, on était un rassemblement de pasteurs, je me souviens, au Québec, il nous a raconté une histoire terrible qui lui était arrivée. Son père était un croyant très strict, on va dire. Et la première fois où il a entendu son fils, le grand prédicateur John MacArthur, hein, à l'école, et alors qu'il était à l'école primaire, mentir chez lui, donc dans son foyer, il l'a vraiment puni sévèrement. Et il a fait quelque chose de terrible. Il a écrit un panneau qu'il a suspendu au cou de son fils. Il a demandé là à l'école, il a dit « Mon fils a menti, c'est un menteur. » Alors, je ne vous conseille pas de faire ça quand même, mais il s'en est souvenu longtemps, John MacArthur. C'est peut-être pour ça maintenant qu'aujourd'hui, il a tellement l'amour de la parole, de la vérité, et qu'il a tellement étudié la parole. Mais il a voulu corriger son fils pour que jamais dans sa vie, il prenne le mauvais pli de mentir par habitude. Alors, il y a peut-être façon d'élever les enfants de différentes façons. Mais nous avons aussi, par la grâce de Dieu, mon épouse et moi, adopté le même principe. Le mensonge est inacceptable dans notre foyer. On ne ment pas, on ne se ment pas. Et le mensonge est puni. Parce que le mensonge, c'est le contraire de la vérité. C'est le contraire de Dieu lui-même. Et de la sainteté de Dieu. Alors, il existe toutes sortes de mensonges. Les mensonges d'État, comme s'il y avait des mensonges d'État. Mensonges politiques, mensonges religieux, mensonges d'omission. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Corinne Ten Boom, Dieu est un enfer. À un moment donné, lorsque les Allemands ont essayé de fouiller dans leur maison, parce qu'ils se doutaient qu'ils cachaient des Juifs, ils sont entrés dans le salon. Or, il se trouvait que la trappe qui amenait à la cachette, c'était un double mur dans la maison, mais il y avait une trappe par laquelle il fallait passer. Était recouvert d'un tapis avec une table. Et l'Allemand, il y avait deux sœurs. Il y en avait une qui avait une conscience prohibitive très sensible et l'autre qui était plus pragmatique, Corinne Ten Boom. Et l'autre ne voulait pas mentir. Mais les soldats, les SS allemands sont venus et ils ont dit « Mais où est-ce que vous cachez les Juifs dans votre maison ?» Et Corinne Ten Boom a été terrifiée lorsque sa sœur, par souci de vérité, a dit « Ah, ils sont cachés sous le tapis. » Elle disait la vérité, elle n'avait pas voulu mentir, mais enfin, c'était risqué. Là. Malheureusement, après, ils ont été arrêtés. Vous connaissez certainement cette histoire extraordinaire de ces sœurs qui ont vécu dans des camps de concentration. Alors, voilà, une conscience certainement très sensible, mais pour montrer qu'on doit toujours, toujours veiller à ne pas mentir. Vous avez entendu parler d'un certain Jérôme Cahuzac, n'est-ce pas? Qui, devant la télévision, les médias, les journaux, a affirmé, mais plusieurs fois, « Non, je n'ai pas de compte en Suisse. Non, je n'ai pas de compte en Suisse. » Il est allé voir le président, et le président François Hollande l'a cru, parce qu'il a dit à François Hollande, président, « Non, je n'ai pas de compte en Suisse. » Il a dit au Premier ministre d'alors, non, je n'ai pas de compte en Suisse. Donc, tous les responsables du gouvernement ont dit, Jérôme Cahuzac n'a pas de compte en Suisse. Sauf qu'il y a une enquête qui a été faite et Jérôme Cahuzac avait vraiment un compte en Suisse. Donc, il a été découvert. Rien de secret, n'est-ce pas? Rien ne peut être... Tout est à découvert, rien n'est de secret devant Dieu et parfois devant les hommes. Et là, il a dû... à un moment donné, sur son blog, demander pardon au président, qui lui a dit « c'est impardonnable ». Maintenant, qui est-on pour dire qu'une faute est impardonnable? C'est Dieu qui pardonne l'impardonnable, on se comprend. François Hollande dit, cet homme est impardonnable. Le Premier ministre a dit, mais c'est terrible ce qu'il a fait, et ainsi de suite. Il a perdu réputation, argent certainement, etc., éligibilité. Mais voyez-vous, le schéma du mensonge, c'est qu'il y a la convoitise, je veux m'enrichir. Il y a l'orgueil de la vie, je vais être encore plus riche. Donc j'ai de l'argent, ben je cache l'argent qui va me rapporter en Suisse, je le cache aux impôts. Et finalement, je mens, d'abord je fraude, et puis ensuite je mens parce que je veux cacher ma fraude. Et puis tout d'un coup, la vérité éclate et Jérôme Cahuzac a été confondu. Maintenant, c'est un homme pécheur qui a besoin de la grâce de Dieu. Et nous avons prié pour que cet homme puisse comprendre l'amour de Dieu et le pardon de Dieu. Mais il a détruit sa vie. Mais vous savez, je suis sûr que ce n'est pas le seul mensonge qu'il a fait dans sa vie. Parce que s'il est arrivé à frauder à tel point de mentir devant tout le monde, qui lui-même, en tant que ministre du budget, combattait la fraude, et les caches, n'est-ce pas, fiscales. Lui qui combattait, d'un côté, il disait ceci, faites ceci, et sous-entendu, ne faites pas ce que je fais. Voilà le mensonge. Alors, il a été confondu, et malheureusement, bon, je ne sais pas ce qu'il est devenu à l'instant, mais il a bien chuté, et la Bible dit, le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Autrement dit, dans le péché, il y a un certain plaisir. Dans le mensonge, il peut y avoir un mensonge qui cache des mensonges. Puis, à un moment donné, c'est un cercle vicieux. On ne sait plus qui a menti et comment il a menti. Mais ceci dit, tôt ou tard, la même bouche qui a menti est remplie de quelque chose de très agréable que la Bible définit comme une bouche remplie de gravier. J'ai jamais essayé, mais ça doit être désagréable d'avoir des graviers dans la bouche. Quelles sont les conséquences du mensonge? Bien, déjà, dans l'Ancien Testament, la législation juive punissait sévèrement le mensonge proportionnellement à la faute. On trouve ça en Lévitique. La Bible dit que celui qui ment ne peut subsister dans la présence de Dieu. Ça doit nous faire réfléchir cela. Autrement dit, je dois être devant Dieu vrai. Et je pense que dans nos vies devant Dieu, on doit être assez humble pour dire exactement ce que l'on est. Je ne sais pas vous, mais tiens, je n'avais pas pensé dire ça ce matin, mais ce n'est pas grave. Je ne sais pas vous, mais dans mon éducation, j'ai appris à ne pas être tout à fait, comment dire, on ne dit pas exactement, on ne veut pas blesser l'autre, on ne dit pas exactement ce qu'on pense, on tourne autour du pot, n'est-ce pas, avant de dire les choses, etc. On veille à l'image. Et puis je suis allé à Québec, où les gens sont drettes, je ne sais pas si on est sur cette expression, très directes. Et là, je peux vous dire que les Québécois, ils disent tout ce qu'ils pensent, même quand ils devraient se taire. Mais ils sont très forts à être très directs. Ils ne veulent pas être hypocrites. Ils disent vraiment ce qu'ils pensent, mais ouh, ça sort. Puis des fois, c'est vraiment, ça manque de tact. Mais c'est vrai, ce qu'ils disent, enfin. Hein? On se comprend. Et là, en tant que petit Français vivant au Québec, j'ai pris des claques parce que j'ai appris, oui, mais il faut vraiment être droit et répondre aussi vite qu'eux. Et j'ai dû apprendre à redresser un peu ce tort d'éducation, à être vrai, à dire vraiment ce que je pense, à être direct. Quelqu'un a dit, il vaut mieux dire la vérité qui fait mal qu'un mensonge qui fait plaisir. Et on a dû apprendre. Donc quelque part, on n'a pas besoin de dire des paroles mensongères pour être un menteur, mais ne pas dire, d'être pas transparent, de communiquer de façon sournoise ou pour plaire aux gens, ou c'est peut-être pas vivre dans la vérité. Ça ne veut pas dire qu'on doit manquer de tact et d'amour. Ce n'est pas ça que je veux dire. Enfin, je crois que vous avez saisi la pensée. Nous devons apprendre à vivre dans la vérité. Et le point que je voulais souligner à l'instant, c'est que soyons vrais devant Dieu. Quand ça va mal dans nos vies, n'essayons pas de prier de belles prières avec des paroles extraordinaires, comme si nous allions gagner l'approbation de Dieu. Dieu sait que ça va mal. Seigneur, je n'ai pas envie de prier ce matin. Aide-moi à prier. J'ai pas envie de lire la Bible, aidez-moi à lire la parole. J'ai pas envie d'aller à l'église, c'est pas votre cas ce matin, je vous félicite. Je vais à l'église par la grâce de Dieu. Tel frère ou telle sœur dans l'église, c'est difficile. Ben, Seigneur, donne-moi de l'aimer parce que là j'ai difficulté. Soyons vrais envers Dieu et soyons vrais envers les uns les autres. Ce que je suis devant Dieu, je le suis devant les autres. Et ce que je le suis devant les autres, je le suis aussi devant Dieu. Ce n'est pas facile parfois de confesser des choses à Dieu et aux autres. Mais on grandit lorsqu'on est vrai. Alors Dieu a jugé terriblement Ananias et Saphira et Géasi. Vous savez que Géasi, Naaman avait été guéri de la lèpre. Élisée a trouvé son serviteur menteur et le jugement de Dieu est tombé. La lèpre s'attachera à toi. La lèpre qui était attachée à Naaman va s'attacher à toi. Et Géasi est resté lépreux jusqu'à la fin de sa vie. Je pense que la leçon a été terrible pour lui. La lèpre était quelque chose de terrible en Israël. Les lépreux étaient mis de côté, rejetés. C'est pour ça que même Élisée n'avait pas accueilli Naaman, parce qu'un juif s'éloignait du lépreux qui était le symbole du péché. Il a dit, va te baigner dans le Jourdain, là. Il n'a même pas rencontré Naaman. Il a fallu que Naaman pile sur son orgueil pour aller se plonger dans le Jourdain et finalement guérir. Mais là, c'est Géasi maintenant qui a la lèpre. En tout cas, on peut dire que le mensonge a toujours des conséquences. Et puis, le mensonge d'Ananias et Saphira, mensonge au Saint-Esprit, finalement, il y a eu un jugement exemplaire de la part de Dieu dans l'Église primitive. Ils ont perdu la vie. Ils ont été enterrés sur le jour même où ils ont fait croire à l'Assemblée quelque chose qui n'était pas vrai et qui était un mensonge devant Dieu. On ne trompe pas Dieu. Et puis, en Apocalypse, pour aller plus loin, pour voir les conséquences du péché, c'est quelque chose de très fort dans la Bible. En Apocalypse 21, verset 8, certainement, si vous lisez la Bible et l'Apocalypse, vous avez lu ce passage, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Combien faut-il dire de mensonges pour être un menteur? Juste un seul. Un seul mensonge amène un enfer. En tout cas, le mensonge qui amène un enfer, c'est ne pas croire que Jésus-Christ est mort à la croix pour pardonner nos péchés et nous donner la vie éternelle. C'est vraiment le mensonge qui amène un enfer. C'est l'incrédulité. Et prions que ceux qui sont autour de nous, de nos bien-aimés, ou dans nos familles, ou dans nos collègues de travail, nos voisins qui ne connaissent pas le Seigneur, puissent aller à la toute lumière de Christ et arrêter de vivre dans le mensonge. Et en chapitre 22, verset 15, « Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. » Donc il y a un avertissement de la part de Dieu concernant le mensonge. Alors quelle est l'attitude que devrait avoir le croyant face au mensonge? Tout d'abord, haïr le mensonge. Le psalmiste disait « Je déteste le mensonge, j'aime ta loi. » Accepter de se faire redresser par ce livre qui est un miroir. Et lorsque je le lis, waouh, je découvre ce que dit Dieu à mon sujet. Et je peux dire « Ah non, c'est trop dur. » Où je peux dire, Seigneur, fais-moi la grâce d'être délivré, d'être purifié, d'être transformé et de ne pas faire Dieu menteur. Dire oui, ta parole est la vérité. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Donc je dois haïr le mensonge et serrer ce livre contre mon cœur afin de ne pas pécher contre Dieu. Prier pour en être délivré. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse qui peut être celle des autres ou soi-même. Jean 1, verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole est pointe en nous. Un des pièges subtils, autant le diable veut initier le mensonge, mais le croyant parfois, lorsqu'il pêche, il dit, ah non, ça c'est le diable en moi, mais ça peut être un mensonge. Oui, le diable peut nous inciter, c'est pour ça que Dieu dit, dans le Notre Père, Jésus nous enseigne, nous induit pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Mais n'empêche pas moins que lorsqu'on pêche, déclarons péché, ce que Dieu déclare péché, et que nous sommes vraiment celui ou celle qui a fait le péché. Vivre dans la vérité et la lumière de Christ, reconnaître son péché, avoir du discernement face aux mensonges spirituels. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. C'est pour ça qu'on a besoin de gens, des apologètes, qui connaissent la vérité, qui prêche la vérité, qui dénonce le mensonge dans ce monde. Aussi, Jean dit, l'apôtre Jean, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas, qui ne voit pas ? Autrement dit, si je n'ai pas de l'amour envers un frère, comment puis-je prétendre aimer Dieu ? Si j'ai l'amour de Dieu en moi, j'aime mes frères et mes sœurs, sinon je fais Dieu menteur. Et la Bible dit en Jacques 4, Éphésiens 4, 25, c'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes ment les uns des autres. Dans un message, quand j'étais étudiant en théologie, je me souviens avoir prêché un message, je parlais des habitudes, etc. Je dis oui, il y a ceux qui se réunissent le samedi, on les appelle les sabbatistes. Et puis ceux qui réunissent le dimanche, les chrétiens, on les appelle les sabbatistes. Parce que ça va, oui, ça va. Mais ça ne va pas toujours bien. Tout le monde, ça va, tout le monde va bien, hein, à l'église. Tout le monde va bien. Bon, des fois, il y a des larmes qui apparaissent ou c'est plus clair. Mais soyons vrais. Soyons pas des sabbatistes du dimanche. Tout va bien alors qu'on est en pleine crise, on est en plein combat spirituel avec le diable, ou luttant avec un péché, ou je ne sais pas, une difficulté matérielle, physique, spirituelle. Alors on ne peut pas se confier à tout le monde, mais quand même, soyons redevables envers Dieu de dire la vérité, puis prenons des frères et sœurs qui nous aident dans l'amour fraternel à combattre avec nous. On a tous besoin les uns des autres. Un jour, l'un est faible, l'autre est fort. L'autre semaine, ça peut être l'inverse. Soyons vrais, c'est ce que je veux dire. Par là, soyons vrais les uns vers les autres. Et un verset aussi qui doit nous faire vraiment réfléchir. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel ? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur ? Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper ? Alors, un chrétien peut-il mentir ? C'était la question du départ. Oui, un chrétien peut mentir. Il peut mentir en parole, consciemment ou inconsciemment. Si c'est inconsciemment, je pense qu'il y a une habitude là qui est à changer. Il peut se mentir à lui-même par des pensées fausses. Il peut être aussi l'objet de l'ignorance, vivre dans un mensonge malgré lui, sans être conscient, parce qu'il vit dans l'erreur, dans l'ignorance. C'est pour ça que nous avons besoin de tout le conseil de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Ta parole est la vérité. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Christ est la vérité, il nous a franchi. Mais Dieu a en horreur le péché et donc le mensonge. Parce que le mensonge est une tromperie, mais on ne peut pas tromper Dieu. Le mensonge ne vient pas de Dieu, mais du diable. Celui qui ment subit les conséquences de son péché. Et Dieu est prêt à pardonner le mensonge lorsque nous le confessons à Dieu et nous l'abandonnons. Dieu nous purifie, nous en délivre, nous sanctifie. Donc le croyant est appelé à vivre dans la vérité, à veiller à ce que ses actions, paroles, pensées soient justes, vraies et honnêtes. Dieu a en horreur le mensonge. Et le verset que j'aimerais vous laisser en conclusion, c'est le verset que j'ai donné pendant les annonces qui dit « Au reste, frère, que tout ce qui est vrai » Au reste, frère, que tout ce qui est vrai. Je me souviens, j'étais élevé dans la religion catholique et je faisais des retraites en Calcat. Je ne sais pas si vous connaissez en Calcat, c'est un monastère dans le Tarn. Et il y a un élève, on était en terminale, qui s'est levé courageusement devant tous les autres élèves et dit « Abat les masques !» parce qu'il trouvait qu'il y avait trop d'hypocrisie parmi nous. J'avais trouvé ça courageux qu'il se lève ainsi. Mais soyons vrais et abat les masques. On peut avoir des masques évangéliques. On peut avoir des comportements qui font semblant que, oui, je suis un chrétien. Et peut-être que notre vie n'est pas si vraie que cela devant Dieu et donc devant les autres. Au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, en pensée, en action, en parole, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, c'est la conséquence de la vérité, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen.